Je voulais savoir les professeurs d'histoire, ils s'arrêtent à quelle date que...
Alors, vous en savez peut-être plus que moi, je vais vous donner mon ressenti.
Et vous répondez aussi.
Alors, en fait, ça dépend énormément du professeur, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de professeurs qui avaient la fâcheuse tendance à s'arrêter en 46, on va dire, à peu près. Notamment la génération de transition, je peux comprendre, hein, je pense qu'un professeur n'a pas forcément de faire un cours où l'élève va lui dire « Et en fait, vous faisiez quoi pendant ce temps-là » donc on peut comprendre ça. Après, ce que je sais, en tout cas, dans l'espace tchèque, je vois ça un peu en Slovaquie aussi. En fait, ce que je vois avec mes étudiants à Sciences Po qui viennent de Rome, sont en train de faire, c'est qu'il y a vraiment, pour le coup, des grosses différences entre pays. Par exemple, alors pour moi, le pays où systématiquement ils savent rien sur le passé communiste, c'est la Bulgarie. Et à chaque fois, dès qu'on a un prof qui fait un cours sur le communisme, c'est les Bulgares qui viennent me voir les yeux comme ça. Ah oui, mais c'est super intéressant et on savait pas. Et est-ce que vous pouvez
Quel pays?
La Bulgarie. Et là, du coup, j'en déduis que dans le système éducatif bulgare, effectivement, il y a un gros blackout sur ce sujet. Dans des pays comme la République tchèque, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, pour prendre des pays où on recrute beaucoup, ça dépend énormément de la mémoire familiale, donc ça passe beaucoup par les familles. Et au niveau de l'école, ça dépend de la génération des profs. Il y a quand même il y a quand même beaucoup d'associations, par exemple, qui proposent des contenus pédagogiques sur mesure, clés en main. Et il y a des écoles et des profs, notamment des jeunes profs, qui s'en servent. Par exemple, en République tchèque, ça marche beaucoup autour des questions de la réconciliation tchéco-allemande, justement la question de l'expulsion des Allemands de Sudet et tout ça. Il y a plein, genre un prof qui a envie de faire des choses là-dessus, il va trouver du soutien, du matériel, de l'argent, tout ce qu'il veut. En Pologne, je pense que c'est un système un peu compliqué, mais en règle générale, c'est très inégal et il y a quand même une tendance à pas trop parler de ça à l'école. Mais c'est en train d'évoluer.
Alors oui, ça évolue énormément parce qu'en Hongrie, c'est l'inverse, c'est l'obsession. C'est très... Je vais encore parler de Viktor Orban, c'est quand même important que ça soit la personnalité dont on parle le plus, mais justement parce que, comme il est là depuis 30 ans, et il est encore jeune, il est né en 1963, donc Viktor Orban, on peut l'avoir encore, en jugé par l'âge moyen de certains hommes politiques français, c'est parti pour longtemps. Donc, Viktor Orban... là aussi, et c'est quand même quelqu'un aussi de très pragmatique, voire de très, on pourrait même l'appeler une girouette, hein, parce qu'il est capable de dire le lendemain le contraire de ce qu'il a dit, la veille.
Il a balayé tout le spectre. Là.
Alors, il a commencé, comme tout le monde le sait, comme jeune opposant, chevelu, barbu, moi je me rappelle de lui dans les manifs, on était étudiants tous, mais il n'était pas le seul, il y avait toute une groupe autour de lui, toute une bande de jeunes, qui étaient donc en 89, il avait 26 ans. Il a, pendant donc, des années, fait une campagne violemment anticommuniste, en disant que la Hongrie n'avait pas été décommunisée, que c'est pour ça qu'il fallait nettoyer la Constitution, nettoyer les juges, nettoyer la presse, etc., etc., parce que, disait-il, dans les structures, dans les forces profondes, le pays était encore pétri de communistes et pénétré par encore des anciennes gardes, etc. Donc, épuration des juges, de la presse, des médias, surtout des médias audiovisuels, et épuration des manuels scolaires, du coup. Enfin, refonte complète des manuels scolaires, qui, comme vous pouvez vous en doutez, jusqu'en 1989, s'arrêtait effectivement à la victoire du communisme en 1948. Et 56, évidemment, on n'en parlait pas, puisque au mieux, c'était, entre guillemets, les événements, quand on était obligé d'en parler, et au pire, c'était une contre-révolution et un complot fasciste. Donc, 56 a fait une entrée massive dans les manuels scolaires, à partir des les premiers manuels scolaires qui sont sortis, c'est à la rentrée scolaire 90, mais surtout à partir de 91. 91 coïncidant au mois de juin 91 avec le départ définitif du dernier soldat soviétique de Hongrie, donc libération, enfin la libération. Et à partir de là, les manuels scolaires donc, ont couvert 1956 et sont allés en gros jusqu'à la mort de Kadar, donc jusqu'en juillet 82. Et puis maintenant, les manuels scolaires pour, on va dire, le collège, hein, les primaires et primaires, collèges, lycées, donc vraiment le grand âge scolaire des enfants en Hongrie, va jusqu'en 2004, donc à entrer dans l'Union européenne. Alors, mais ça, c'est très très résumé, ça va très vite, et comme généralement, comme vous le savez, c'est la fin de l'année, les profs sont en retard, on va vite. Et puis là, les gens l'ont vécu, donc éventuellement, le prof va raconter voilà, comment lui, il a vécu. Et comme on le disait tout à l'heure, et on l'a répété il y a là un instant, 1989, ça fait quand même 30 ans. Ce qui veut dire que maintenant, on a pratiquement les profs qui étaient seuls, à part les profs qui étaient débutants en 1989, la quasi-totalité des enseignants qui étaient en poste en 1989, ils ne sont plus là. Donc on a donc formé des nouvelles générations. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à l'université, là, en revanche, en Hongrie, on fait encore ce qu'on veut. Mais effectivement, mais comme on fait ce qu'on veut, on peut très bien avoir d'un côté un prof révisionniste qui va dire que Horthy a sauvé les Juifs et que la Hongrie était un véritable paradis jusqu'en 1944. Et puis vous allez avoir à l'inverse quelqu'un qui va vous dire que Horthy était un facho et que voilà. Et bon, ça brouille quand même un petit peu le message. Alors le problème à l'heure actuelle, le problème que l'on a, le grave problème que l'on a, c'est la Pologne. Puisque dans l'enseignement de l'histoire, puisque la question de monsieur portait là-dessus, c'est que, comme vous avez peut-être entendu récemment, en Pologne, mais aussi à l'étranger, un historien polonais, disons quelqu'un qui a un poste, ça peut être un juriste, ça peut être, mais bon, quelqu'un qui en gros est payé par l'État, et qui va, dans un espace public, faire, comme là ce soir, une déclaration en disant que les Polonais ont tué des Juifs et que l'Holocauste est aussi un fait de Polonais, cette personne peut être poursuivie par la loi. Donc, c'est-à-dire que si dans la salle, il y a quelqu'un qui va cafeter en disant qui a filmé ou qui a enregistré, il va dire, voilà, le professeur Intel s'est exprimé dans un colloque autre, éventuellement, un juge polonais peut se saisir de l'affaire. Donc là, on est quand même, on atteint un niveau, parce qu'on se dit, bon alors, que vont dire les enseignants dans les années qui viennent sur la Shoah en Pologne ? Parce que si c'est que les Allemands, ce qui a été, en fait, soit dit en passant, l'analyse que faisaient les communistes pendant les 40 ans du régime. C'était les villes. Tout ce qui a été fait, c'était les Allemands. C'était pas les sociétés locales. Et les monuments commémoratifs, etc., englobaient tout le monde, juifs et pas juifs. Alors il y avait des beaux monuments marqués aux citoyens victimes du fascisme. Et on ne faisait pas la différence entre le citoyen, si c'était tous des juifs ou si c'était pas des juifs. Hein. Ça, là, on a vraiment un problème pour l'enseignement de l'histoire.
Jean-Louis, vous parliez de disparition des ethnies, mais il y a quand même un problème démographique gravissime qui est analysé dans la revue d'études de ce mois-ci, devant l'immigration, aussi bien en Pologne et ça, que par le très faible taux de fécondité des citoyennes de ces pays. Alors, est-ce que ça explique pas aussi un certain nombre de choses ? Et la deuxième question que je vais poser, quel est encore le traumatisme des pays qui ont été sous domination turque ?
Si je peux réagir sur la Turquie, parce que juste, je ne suis pas un spécialiste de ça, donc je vous donne un ressenti et une anecdote qui m'a assez marqué. Il se trouve que pour des raisons professionnelles, ces dernières années, entre il y a 5 et il y a 2 ans à peu près, je venais plusieurs fois en Macédoine. Et c'est un pays très intéressant, Macédoine, assez attachant par certains côtés. Là aussi, en fait, pourquoi je le trouve attachant ? Parce que c'est quand même le pays qui, alors pour ses voisins du Nord, c'est une nation qui n'existe pas. Pour le voisin du Sud, c'est un pays qui usurpe un nom qu'il ne devrait pas avoir. Et puis, pour le voisin à l'Ouest, bon, on va dire que... Alors, vos voisins à sud-ouest, c'est le pays qui n'existe pas non plus, mais pour de très nombreux voisins du nord. Et puis, effectivement, bon, bah, Kosovo et Serbie, on va dire que ça va à peu près. Bon. C'est très intéressant, j'ai pas mal discuté avec des Macédoniens qui m'expliquaient qu'il y avait une sorte de retour de nostalgie d'Empire ottoman. Et que, par exemple, des séries historiques turques sur Soliman le Magnifique, ça marchait de tonnerre, ça. C'était les Macédoniens, ils regardaient que ça. Et c'est marrant parce que moi, ça me rappelle aussi une sorte de nostalgie d'Empire austro-hongrois qu'on rencontre en Centrale-Orientale. Donc, il y a quelque chose d'ambivalent. Et vraiment, le lieu que je trouvais très intéressant de ce conduit-là, qui pour moi incarne cette ambivalence. Il y a une petite ville, Bitola, en Macédoine, qui est en fait la ville où Mustafa Kemal a fait ses classes militaires et il a vécu son premier amour. Et vous avez le musée municipal de Bitola, vous avez une première aile, un peu décative, mais quand même très bien entretenue, où vous avez, en gros, le sujet, c'est l'infâme oppresseur turc. Vous avez le revolver qui a servi à abattre un gendarme turc par un résistant macédonien, etc. Vous traversez le couloir, il y a une deuxième aile, flambant neuve, entièrement financée par la Turquie, et c'est que sur l'histoire d'amour d'Atatürk et ce grand homme qui a vécu pendant 2 ans à Bitola. Et là où la chose devient vraiment particulièrement drôle, c'est qu'à un moment donné, vous avez une carte qui explique ensuite la carrière militaire d'Atatürk pendant la Première Guerre mondiale. Et vous avez cette carte, vous avez 2 catégories. Vous avez Turquie et ses alliés, et vous avez... elle est complètement faite de points de vue turc, la carte. Donc, je pense qu'il y a dans... Alors, la Macédoine est sans doute un cas un peu extrême, mais quand on regarde la présence économique et culturelle, enfin, le soft power turc, effectivement, joue dans les Balkans. Et en même temps, quand vous discutez avec des gens, ils vous expliquent qu'effectivement, c'est très ambivalent parce qu'ils étaient élevés dans quand même une attitude très anti-turque, on va dire, pour faire simple. Et en même temps, il y a cette espèce de nostalgie et aussi de sentiment, eux, au moins, ils nous comprennent. Et eux, ils viennent chez nous, ils investissent chez nous, ils nous construisent des beaux musées, alors que l'Occident, ils se moquent de nous, ils n'arrêtent pas d'ajouter des conditions, etc.
Il n'y a pas 17% d'Albanais en Macédoine.
Si, tout à fait.
Alors, lesquels regardent
En tout cas, moi, j'avoue que je n'ai pas du tout côtoyé les Albanais de Macédoine. Et Bitola, ce n'est pas du tout cette zone-là. Bitola, c'est vers la frontière, c'est en route de Thessalonique, en fait.
Les Turcs ont effectivement un rôle assez inquiétant.
Mais ça peut... après, ça sera un autre sujet sur... la première question, c'était...
La population.
Oui, démographiquement, l'Europe centrale, mais un peu comme l'Allemagne, etc. Et d'ailleurs, c'est à la fois le paradoxe et une des ressources de l'attitude anti-immigrée. Parce que d'un côté, le paradoxe, parce qu'effectivement, l'immigration, et d'ailleurs, pourquoi l'Allemagne s'ouvre, parce qu'elle a cette vision pragmatique des choses, alors qu'effectivement, en Europe centrale, il y a cette peur que, surtout avec une démographie comme ça, en plus s'ouvrir, certes, ça va, les arguments économiques vont dans ce sens-là, mais il y a cette énorme peur de... Et là-dessus, vous ajoutez le fantasme d'islamisation de l'Europe, qui est extrêmement vivant en Europe centrale-orientale, nourri par tous les Sputnik News et compagnie. Et franchement, ça crée des choses. C'est-à-dire, vous avez des pays où vous avez quasiment zéro musulman, où vous avez zéro réfugiés qui sont venus. Je parle là encore de la République tchèque, de la Pologne, de la Slovaquie. La Hongrie, c'est particulier, parce que la Hongrie, elle a vraiment connu, le paysan polonais, il voyait des centaines de milliers de personnes traverser ses champs, on peut comprendre. Mais dans les 3 autres pays, la crise des réfugiés, les gens l'ont vu à la télé, mais ça a provoqué un fantasme et une peur extrêmement profonde qui aussi résonne sur cette idée, nous sommes en train petit à petit de se dépeupler. Alors si en plus maintenant, il y a les étrangers et en plus des musulmans qui viennent, c'est la fin de notre
société. Ça, c'est instrumentalisé donc, par les médias, ou par exemple, en Hongrie, la télévision, maintenant, toutes les chaînes sont à la solde du pouvoir, et vous ne voyez pratiquement que des reportages sur les problèmes avec les musulmans, ici, pour faire peur donc, par anticipation, en disant « Regardez ce qui va nous arriver », si on accepte des migrants. Alors il y a une politique nataliste toujours du gouvernement Orban, énorme, il y a des primes, la prime maximale étant 4 enfants, etc. Enfin, il y a vraiment un encouragement nataliste qui ne marche pas du tout. Ça, voilà, ça marche absolument pas. Et je vais juste dire un mot aussi sur le... Il se trouve que je connais très bien la Macédoine, et je connais la partie athénienne ici. Et la Turquie a investi effectivement massivement, à commencer par Sarajevo. À Sarajevo, il y a une université privée qui est turque, avec des enseignants locaux, mais qui est une université financée par la Turquie. Et là aussi, comme vous disiez tout à l'heure, rien n'est monolithique. C'est-à-dire que selon le passé que le pays, enfin que le pays, que la nation, ou ce qui se considérait comme la nation bulgare, etc., etc., a eu avec l'Empire ottoman, ça conditionne la vision qu'on en a maintenant, selon qu'il y a des minorités musulmanes turcophones ou pas, ou, bon, alors en Bulgarie, ils sont musulmans, mais ce sont des Bulgares, enfin bon, voilà, c'est quand même très, très, très spécial. Et là aussi, à nouveau, manuel scolaire, comment est-ce que c'est présenté dans les manuels scolaires? Là aussi, c'est à géométrie variable. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que plus la domination ottomane a été ancienne, plus maintenant on s'en accommode finalement. Donc la Hongrie, où ils sont partis à la fin du XVIIe siècle, à partir de la fin du XIXe siècle, on est devenu très copain avec les Turcs. En disant, bah, finalement, c'est un peuple qui est quand même assez proche de nous, la langue, le hongrois appartient au grand bassin ouralo-altaïque, etc., etc. Et dans la on a parlé des lieux de mémoire il y a un instant, le lieu de mémoire principal en Hongrie, qui fait référence aux Turcs, c'est donc Mohács, puisque c'est là qu'en 1526, les troupes de Soliman le Magnifique ont battu le roi de Hongrie. Le site mémoriel a été complètement reconnu ces derniers temps. C'est ça qui est c'est absolument fantastique, c'est un palimpseste, c'est parce qu'on a laissé ce qui était là déjà depuis les années 70, donc avec une représentation en fait à égalité des Turcs et des Hongrois, finalement. Et puis par-dessus, eh bien, la politique mémorielle actuelle du régime a mis à la place de l'entrée du site, telle qu'elle était il y a encore jusqu'au début des années 2000, un énorme dôme, un peu comme les lampes là, mais qui figure la couronne de Hongrie. Voilà, donc histoire de bien montrer qu'en fait on a perdu mais on a gagné.
Alors juste, si je peux me permettre, pour relativiser, si vous aimez ce genre de juxtaposition, il y a un endroit incroyable en Italie. C'est le lieu où on a fusillé Mussolini.
Ah bah, oui.
Où vous avez trois plaques qui effectivement montent les trois strates de la mémoire italienne sur. Donc c'est pas quand même central.
Il y a madame qui veut poser une question depuis une éternité.
Je trouve que vous n'avez pas beaucoup parlé les uns et les autres de l'apport, je dirais, économique, financier, développement qu'a apporté l'Europe à ces pays. C'est vrai ou pas, quoi? Est-ce que ça les a permis à se développer? Par exemple, l'Europe a énormément permis à l'Espagne ou au Portugal de se développer très vite. Est-ce que c'est pareil avec ces pays-là ou pas? Vous n'en avez pas trop parlé.
Pour en dire un mot tous les deux, oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est aussi ce qui pose problème dans le discours actuel de M. Orban, toujours. C'est que à la fois, il se laisse aller à des diatribes absolument
invraisemblables. On l'a bien aidé, quand même.
Il y a eu l'affaire de l'affiche, quand même, avec Juncker et Soros. Moi, je l'ai vu, j'ai vu la veste au mois de février. J'arrive pour prendre mon métro, je vois ce truc. Immédiatement pris en photo. Et il ne dit pas à la population, qui pourtant le voit, elle voit les routes, elle voit les...
Voilà, c'est ça.
Il y a des autoroutes tout flambant neuves, il y a des... Bah bon, maintenant, vous ne vous arrêtez plus sur l'autoroute entre Vienne et Budapest.
Ça, les gens ne le savent pas, ça?
Si. Bah, si, parce qu'en principe, ils le voient. Mais quand Orban a ce double discours, c'est-à-dire en disant « Oui, mais l'Europe, c'est l'horreur, il nous impose des choses, etc. », alors qu'au quotidien, il y a énormément de citoyens qui sont capables de voir qu'il y a eu des investissements énormes.
Je vais risquer une hypothèse, le problème est exactement le même en France. Ce n'est pas un problème spécifique à l'Europe orientale. L'Europe a beaucoup apporté à l'agriculture française,
oui,
etc.
Oui, mais justement,
regardez le niveau de discours par rapport à l'Europe en France.
Non, mais en fait, c'est massif, c'est visible, c'est essentiel. Absolument. C'est 3-4% du PIB de ces pays.
Oui, voilà.
Mais il y a un certain nombre de bémols qui expliquent pourquoi ça ne marche pas. Un, ça c'est ma conviction personnelle, et c'est vrai pour n'importe quel pays européen, on n'achète pas les peuples. C'est pas parce que vous dites aux gens que vous leur donnez de l'argent qu'ils vont adhérer au projet politique que vous portez. Et essayez de le faire. Et la pire des mesures contre-productives.
Oui, oui, je...
Parce que ne serait-ce que sous-entendre qu'on vous donne de l'argent, donc taisez-vous et suivez, c'est la pire des choses.
Oui, oui, je suis d'accord.
Donc, première chose. Deuxième chose, il y a des effets pervers. Alors, qui à 90%, sinon 100%, sont de fait des niveaux nationaux, locaux. Mais ça, pour le coup, les citoyens, ils le voient moins bien, parce que si on n'est pas spécialiste de la chose, on ne se rend pas bien compte. C'est-à-dire, qu'est-ce que voit le citoyen? Il voit l'argent européen utilisé n'importe comment. Et il a tendance à blâmer l'Europe pour ça. Parce qu'il ne sait pas que l'argent européen, en fait, l'affectation de cet argent, elle est décidée au niveau national. Et l'Europe a très peu de moyens, alors quasiment pas de moyens en amont d'obliger les choses. Et à l'aval, le contrôle est quand même, on va dire, assez bon. Donc on voit à la fois qu'il y a des proches des hommes politiques qui se servent. On a un Premier ministre hongrois qui effectivement construit des stades dans des endroits improbables avec ses amis, etc. Vous avez le Premier ministre tchèque qui est d'ailleurs mis en examen pour une affaire d'abus des fonds européens, etc. etc. Troisième élément, vous avez une partie de l'euroscepticisme en Europe centrale orientale qui est justement libérale et qui justement tape sur l'Europe parce qu'elle est trop socialiste. Ces gens-là, ils adorent le discours, les subventions, c'est toxique. C'est une mauvaise allocation de ressources. En fait, ça nous coûte plus cher que ça nous rapporte. Effectivement, c'est bien beau vos chiffres sur les milliards que vous déversez chez nous, mais vous ne faites que déformer le marché. Vous tuez l'entrepreneur local pour financer les grosses entreprises d'infrastructures européennes, notamment françaises, Vinci et autres se reconnaîtront. Et donc, en fait, c'est un marché de doute. Et c'est un discours qui est très idéologique, qui est assez largement, à mon sens, faux, mais pas totalement. Dans une certaine mesure, il y a ça. Et même de l'autre côté, en France, vous avez notamment Piketty qui a écrit plusieurs articles sur le sujet, qui montrent qu'effectivement, si on met d'un côté le bénéfice financier via les fonds européens pour les pays d'Europe centrale, et après vous avez les rentrées des capitaux de toutes les entreprises occidentales qui réalisent des bénéfices là-bas, on est sur des montants très comparables. Donc moi ça me va plutôt très bien, ça veut dire que c'est gagnant-gagnant. Mais le problème c'est qu'à l'Ouest, on présente ça comme une aumône qu'on arrache aux enfants français pour nourrir des colonels. Et à l'Est, on a tendance à dire c'est l'argent par lequel on essaie, de nous acheter notre âme. Hein, on essaie d'acheter notre accord avec des choses inacceptables. Là encore, c'est un bel exemple d'une politique européenne qui, en soi, est très vertueuse, très positive, mais qui est tellement mal vendue des deux côtés. Et c'est tout l'élargissement. L'élargissement, c'est le plus grand succès de l'Union européenne de ces 30 dernières années.
Oui.
Mais qui le perçoit comme ça? Personne, parce que c'était très mal communiqué des deux côtés.
Quand vous écoutez tout ça, je me dis, où est l'âme de l'Europe? Où se trouve l'Union? J'espère pas que vous le dites, l'Union des finances. Parce que justement, vous avez bien dit, la diversité des gens, de l'élite, du bien, de tous, et du contre. Et c'est ça là que, pour moi, c'est le problème là, c'est où est trouvez-vous l'unité? Où? C'est uniquement par Dieu. C'est Dieu qui forme l'homme intérieur. Écoutez, là je dis au niveau deux, trois phrases. Si l'homme n'était pas fortifié par Dieu, il est changeant. C'est Dieu qui fortifie. Vous pouvez rire de ce que vous voulez. La Pologne, juste on peut dire la Pologne, avec son pape extraordinaire, elle a été aidée avec Walesa. Elle a été aidée, le peuple. Mais ils nous vont dire, si Dieu n'aide pas l'homme devenir l'homme comme il va être, il est toujours changeant. Il écrit que ce signe, demain, il ne signe plus, il conteste. C'est justement ce communisme. Le communisme détruit tout ça. Il travaille contre l'unité. C'est toujours cela, le contre. Et l'homme qui n'est pas à quelque chose profonde, uni avec des autres, une droite d'union, une justice, ensemble, ils ne trouveront jamais l'unité. C'est mon point. Et naturellement, on ne peut pas parler, on ne peut pas développer, parce que le temps est très, très, pour moi, très, très court. Mais c'est ça, l'homme n'est pas l'homme qui va être.
On essaye de ramener, enfin nous les enseignants, les gens de culture,
scientifiques, académiques, etc., nous, ce qu'on essaie, c'est de ramener de la culture là-dedans. De dire que effectivement il y a le marché, il y a des investissements, il y a peut-être des discours nationaux justement qui tendent à opposer les uns et les autres, et on fait souvent reproche à l'Union européenne d'avoir monté tout un tas d'outils et d'avoir oublié le culturel dans l'affaire. Mais là aussi, il y a quand même des programmes extraordinaires d'échange culturel en Europe. Erasmus, c'est un succès extraordinaire. Et ça, ça permet, madame, de ramener de l'entente entre les peuples au-delà des. Voilà, au-delà de ce qui est purement financier, soit.
Je signe à 200% et je vais donner juste un exemple concret. Je pense que l'idée européenne en France, prendre cet exemple-là, progressera énormément le jour où, dans des cours de littérature, où on apprend aujourd'hui des pièces de Molière, et c'est très bien, où on apprendra aussi et peut-être surtout que Molière s'est inspiré d'un mythe espagnol, qui a inspiré un Italien pour écrire un livret qui était mis en musique par un Autrichien pour un opéra créé à Prague. C'est ça la culture européenne.
Et
qui aujourd'hui dit ça avec l'enjeu. Et le problème, et c'est là où il y a un potentiel peut-être européen des pays d'Europe centrale orientale plus grand qu'on a un peu galvaudé, parce que c'est des pays qui ont quand même un avantage. Enfin, ils ont l'avantage de leur inconvénient. C'est-à-dire le fait d'être petit, ça vous oblige de vous ouvrir aux autres. C'est-à-dire vous ne pouvez pas faire un programme d'histoire ou de littérature tchèque avec uniquement des auteurs tchèques. Enfin, vous pouvez, mais c'est ridicule. Donc vous ne le faites pas. Donc effectivement, quand vous êtes un jeune tchèque, un jeune slovaque, un jeune hongrois, un jeune hongrois, enfin, j'espère encore, ou polonais, vous apprenez Shakespeare et Dante et Goethe comme votre patrimoine à vous aussi, d'une certaine manière. Alors après, ça dépend des profs, ça dépend des gens, etc. Et moi, en tout cas, j'étais élevé comme ça par mes parents. Et c'est vrai que le drame des grands pays, c'est qu'ils se pensent autosuffisants. Et en plus, même dans ce qui à eux vient d'ailleurs, bah, ils n'ont pas forcément besoin d'insister là-dessus. Et le problème, c'est qu'effectivement, j'ai fait un lycée en France. Bah, j'avais une prof de français très ouverte qui effectivement a introduit quelques auteurs, dont Kafka, mais tout en nous expliquant qu'elle sortait du programme officiel et que normalement elle n'avait pas le droit, et normalement elle était censée lire que des auteurs français. Bon, c'était un autre âge, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui c'est
le sens et la vie.
Mais pour la musique, c'est pareil. Voilà. On prend une dernière question, deux dernières questions. Allez-y.
Peut-être tout en même temps.
Oui, voilà, on est groupe. Allez-y, et ensuite oui. Catherine.
Oui, l'Europe qui est d'actualité en ce moment, c'est un lien politique. Alors, ici, on parle quasiment jamais de politique, en général, on parle beaucoup plus d'œcuménisme, de droit familial, d'autres liens qui sont aussi fondamentaux, mais le lien politique compte. Et l'Europe, c'est un lien entre l'État-nation, comme la France, ici, et le monde, l'ONU. Et sur le thème principal de l'Europe aujourd'hui, à dire vrai, sont ses frontières extérieures. Est-ce qu'on y met le Canada, les États-Unis, les Antilles, l'OTAN, est-ce qu'on garde les pays baltes? Bon, et ce qui est aussi dans cette soirée, qui est un peu inattendue, qui a été bien préparée, c'est qu'on a parlé de l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie, capitale Prague, effectivement, 1919, c'est le centenaire, c'est la cause principale de la Deuxième Guerre mondiale. Et à dire vrai, d'un point de vue économique, car d'être évoqué, il y a quand même un problème de taille critique, hein, parce que on a besoin pour faire une industrie mondiale de grands pays. Et donc, on est quand même un peu gêné aujourd'hui par l'éclatement de l'Autriche-Hongrie de 1919. Alors, nous avons besoin certainement de l'Europe centrale, de l'Europa, d'Europe centrale, ne serait-ce que par exemple pour la relation avec l'Inde, le Royaume-Uni, le Canada. On a besoin de l'Europe centrale forte. Donc, ma question, c'est s'il est vrai, par exemple, ce qui est à mon hypothèse, qu'on a besoin de convergence, comment expliquer la révolution de Vélo? Comment expliquer, au lieu d'avoir une convergence autour de Prague, Tchécoslovaquie, Suisse, Autriche, Hongrie, Pologne, comment expliquer que la Tchéquie et la Slovaquie se soient séparées?
C'est un peu de détails, mais en vous entendant, j'entends la voix de Pierre Asner sur la décomposition des sociétés due à ces années du communisme. Il n'y avait plus de vitalité démocratique du tout. Mais je me demandais un petit peu avec des éléments. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont négatives en Pologne, etc., au sens-là, mais Viktor Orban. Mais je sentais un peu peut-être des petits frémissements la nouvelle élection de cette femme à la tête de la Slovaquie, je crois que c'est quand même important. Nous avons ici reçu à confrontation Pavel Fischer quand il était en France, qui a été formé aussi à l'ENA, et qui avait fait un score pas ridicule aux dernières élections en Tchéquie. Et alors, une question, ça aurait été plutôt comment mettez-vous l'Allemagne de l'Est par rapport à ses influences du communisme ? C'est autre chose que ces pays qui étaient complètement, enfin, ils ont été complètement et très fortement marqués
par ça. On va en parler, c'est très bien, il nous reste une dernière question. Là, ça me dit.
Non, je voulais seulement témoigner parce que moi, ma mère était serbe, et pendant des années, je passais un mois en Serbie. Alors je dis simplement, il ne faut pas oublier le problème religieux, parce que du temps de Tito, on ne parlait que des problèmes des communistes avec la Tito, etc., des Polonais avec la Zadak, etc. Et puis il y a l'importance de la paix entre les religions, parce que quand vous parlez de la Roumanie, de la Macédoine, derrière ça, bon, c'est vrai qu'il y a l'Albanie, il y a le problème du Kosovo aussi, qu'on n'a pas traité. Et je pense que quand on fait nos discussions sur l'Europe en ce moment, on ferait bien de s'occuper des problèmes de l'Europe de l'Est et des Balkans, parce que ça va nous retomber dessus. Moi, je lis, excusez-moi, ça m'arrive d'ailleurs tout le coup, alors, je vois par exemple que la Serbie demande des armes à la Russie. Je vois, quand vous parlez de la Bulgarie, la Bulgarie, c'est un pays qui est traditionnellement pro-russe, mais alors, ils ont été libérés par le tsar Nicolas I. Bon, donc, c'est ce genre de pays qui veut très bien se tourner vers la Russie. On dit, on traite des brins de ces pays, on ne connaît rien sur leur histoire. Enfin, quand vous allez en Serbie, on vous parle de la bataille du Kosovo, on parle des, jusqu'à 600 ans d'occupation turque, c'est pas rien. Enfin, je rappelle, quand j'ai eu la guerre en Serbie, je ne fais pas de l'apologie des Serbes, mais simplement, je peux vous dire que j'ai lu un article du Monde, je ne sais pas ce qu'il racontait. Que depuis ce moment-là, je n'ai plus un canard pratiquement en France. Hein. Le Monde, c'est terminé. Parce que ce sont des gens qui parlent de choses qui ne connaissent pas. Hein. Et donc, quand vous avez Macron qui met le 11 novembre assis à la place du fauteuil réservé au présidentiel, il met le président entre guillemets du Kosovo, vous vous rendez compte ce que ça a fait en Serbie, le scandale que ça a fait. La Serbie qui a perdu le tiers de ses hommes dans la guerre de 14-18. Enfin, j'arrête. Mais de là, il faut faire la paix entre les
deux. On va vous répondre.
Est le seul candidat à vouloir élargir l'Union européenne aux Balkans, d'ailleurs.
Bon, on va prendre les questions dans l'ordre. Sur la première question sur la taille, la question de Catherine ensuite, et puis la question du Kosovo, enfin tout ce que vous avez évoqué là. Qui commence ?
Alors je vais vous donner, je vais faire dans le sens inverse, je vais répondre d'abord à monsieur. Le président serbe ne s'est pas retrouvé à la bonne tribune parce qu'en fait il est venu avec sa femme. C'était pas prévu par le protocole. Et on lui a dit, bah écoutez, c'est simple, soit vous restez avec madame, mais malheureusement, vous devrez aller à la tribune en face. Soit madame s'en va et elle va se promener, quoi, et vous pourrez être assis à la tribune des chefs d'État. Bon, ben, il a refusé, mais il n'y avait pas prévu le protocole. Donc, voilà.
Incident diplomatique.
Voilà.
C'est un bon coup à mentionner.
Oui, voilà. Mais bon, j'ai l'info de la part de quelqu'un qui, justement, connaît très bien le président du Kosovo. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous fournir un intervenant qui viendra vous parler du Kosovo et des problèmes des Albanais dans les Balkans.
Et aussi les problèmes des Serbes, madame.
Ça sera très intéressant.
Vous avez la réponse à votre question, voilà, là, dans le détail.
J'ai pas le temps d'être pas bon pour faire. Ce serait bien, effectivement, de faire un débat sur les Balkans et le rapport que.
C'est un autre sujet.
C'est bien vous donner l'idée, là, que j'étais venu.
C'est un autre sujet. Donc, il y avait madame.
La taille
critique. Ouais, c'était un peu la taille de la question de monsieur aussi. C'est est-ce qu'il y a aussi too big to fail, hein. Bon, voilà. Je pense pas. Regardez le succès de l'Autriche, qui avait été jugé en 1919 au moment du traité de Saint-Germain comme non viable. D'où une envie de tous les partis autrichiens, y compris les sociaux-démocrates, de faire autre chose. En disant, on ne peut plus vivre tout seul, l'industrie est en Bohème, les produits agricoles sont en Hongrie, l'Autriche va s'écrouler dans quelques mois si on ne fait pas autre chose avec l'Allemagne. Bon, preuve que l'Autriche a très bien vécu sans l'Anschluss, surtout après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, pour tout un tas de raisons idéologiques, bien entendu. Donc, c'est aussi ce qu'on a dit quand la Yougoslavie, justement, a éclaté. On a dit, bon, ben, les Slovènes vont être bouffés par les Autrichiens. Il y a des gens qui ont dit que ça va être le 11e land de l'Autriche. Et bon, la Slovénie a réussi à s'en sortir. Donc, je pense pas qu'il y ait une size dependency, pour employer un beau mot de la géopolitique anglo-saxonne.
Avec les entreprises, bon. C'est différent. Hein.
Ça, je pense pas, je suis pas experte en la matière, mais je pense pas que ce soit un argument qui tienne.
Mais les Autrichiens, dans leur format actuel, sont extrêmement performants sur le plan économique.
Absolument.
Et ils parviennent à 90% à l'exportation.
Voilà, ils ont quand même fait le chômage, même pas.
Alors, je vais peut-être partir de là. Alors, juste, il y a une très belle page dans les mémoires de Jean Monnet où il raconte sa rencontre en 1920-21 avec Benesch, où justement il lui explique que morceler cet espace-là est une absurdité, et Benesch lui explique que je préférais que l'Autriche disparaisse plutôt que de faire une fédération avec vous. Et Monnet conclut, voilà. Ce que le nationalisme fait à des gens intelligents. Bon, il ne dit pas comme ça, mais je résume. Je suis d'accord avec vous, c'est un morcellement qui a un côté absurde, mais à un moment donné, essayer de maintenir quelque chose qui ne marche pas, c'est pire que d'accepter le morcellement. Et c'est le cas de la Tchécoslovaquie. En plus, votre argument économique, je
le divorce, c'est jamais une bonne solution.
Ah si. Je connais des enfants.
Il est interdit en France, jusqu'en 1970.
Je connais des enfants qui regrettent que leurs parents n'ont pas divorcé parce qu'ils auraient une enfance plus heureuse qu'avec des parents qui s'engueulaient tous les soirs. Bon, c'est pas grave. Mais tout ça pour vous dire que, au point de vue économique, honnêtement, je ne suis pas sûr que votre argument marche parce que, de toute façon, pour les entreprises, les frontières nationales n'ont plus de signification sur le marché européen. Et d'ailleurs, regardez toutes les entreprises internationales. Elles sont basées soit à Prague, soit à Budapest, soit à Varsovie, pour s'occuper de toute la zone. Donc honnêtement, je pense que ça... Alors après, il y a des secteurs où ça ne marche pas comme ça, mais c'est plutôt exception. Mais oui, il y a une question de taille critique, mais je trouve que l'Union européenne a une réponse à ça. La séparation de Tchécoslovaque, c'était effectivement un affaiblissement, mais vu le côté totalement dysfonctionnel de cette fédération et l'incapacité totale des élites politiques des deux nations à trouver un compromis viable, valait mieux un divorce propre, net et clair, qui était d'autant plus facile qu'on savait que de toute façon, on va se retrouver dans l'Union européenne, on espérait à l'époque que ça s'est finalement passé, qu'on va se retrouver dans l'Union européenne et que donc tout ce qui est finalement négatif lié à l'existence d'une frontière entre les deux pays va être au pire relativisé, au mieux totalement effacé. Sur la présidentielle slovaque et la présidentielle tchèque, c'est exactement ce que je disais. Même ces pays ne sont pas des monolithes. Alors peut-être que la Hongrie est un peu plus que d'autres pays. Et moi, ce qui m'interloque, c'est cette incapacité d'opposition hongroise de construire quelque chose. Pour moi, c'est un mystère. Vous m'expliquerez un jour, mais je ne comprends pas. Mais par contre, la Slovaquie est un très bon contre-exemple. Vous avez effectivement un pouvoir avec des relents un peu mafieux, très bizarre. C'est vrai que le parti de M. Fico, c'est pas très joli. En plus, c'est un petit pays, donc avec tout ce côté, tout le monde connaît tout le monde tient tout le monde. Enfin, c'est pas facile. Mais régulièrement, la société civile slovaque fait des choses formidables. Et s'est débarrassée d'un apprenti dictateur dans les années 90 d'une manière incroyable, grâce au levier européen et au temps, parce que la vision d'adhésion à ces deux organisations. Ils ont élu le président qui est en train de terminer son mandat, qui est aussi un personnage très intéressant. Là, donc effectivement, côté tchèque, on a plus du mal avec ce genre de capacité à produire une alternative politique au moins de temps en temps. Et Pavel Fischer, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais honnêtement, il n'avait aucune chance. Il a fait un score qui était mieux que prévu. Il a fait 10%, c'est bien, mais ça reste 10%. Ouais. Mais si, je pense qu'il est plutôt bien parti. Peut-être que la prochaine présidentielle... pour avoir ses chances. Sur la RDA, je pense que la RDA, c'était très utile parce que c'était le crash test. Ça a permis de montrer à tout le monde qu'effectivement, rentrer sur le marché commun du jour au lendemain, c'est suicidaire. Et c'était riche en enseignements pour les pays d'Europe centrale-orientale pour mener à bien leur préparation. Et effectivement, aucun autre scénario à la RDA ne s'est répété. Même les pays les moins bien préparés, ne vais pas les citer pour ne vexer personne, mais ils ont tenu, grosso modo, quelques secteurs qui ont souffert. Hein, les Tchèques se sont amputés de leur secteur sucrier. Bon, on peut s'en... Tant pis, mais ce n'est pas très grave. Donc je pense que RDA elle a fonctionné comme un crash test qui n'était pas si dramatique que ça pour l'Allemagne, parce que la solidarité inter-allemande a fait un effort juste hallucinant qui a permis grosso modo de maintenir les choses. Mais quand on voit aujourd'hui le clivage politique espèce en Allemagne, on voit bien que oui, bah, y a un pays post-communiste au sein de l'Allemagne. Je veux dire, quand on voit Pegida, quand on voit les scores d'AFD, quand on voit les scores de Die Linke, bah, on voit très bien qu'il y a un pays post-communiste, mais qui quand même ne pèse pas suffisamment à l'échelle de la fédération pour que ça détruise le pays. Et puis sans doute Angela Merkel, du fait de son origine, a su. Et ça sera peut-être plus compliqué avec ses successeurs. Oui. Sur les Balkans et la relation à la Russie, oui, vous avez totalement raison. De toute façon, vous arrivez à Sofia, vous avez une grande statue du tsar libérateur. Donc oui, mais en même temps, je vous fais quand même remarquer une chose, c'est que malgré toutes ces choses-là, malgré le flirt quand même assez récurrent de Viktor Orban avec Poutine, etc., bizarrement, sur les sanctions, bah, l'Union européenne est restée unanime. Ce qui, est, pour moi aussi, est une divine surprise. Parce que s'il y avait un sujet sur lequel j'aurais parié que l'Union européenne ne sera jamais capable de maintenir son unanimité. Et il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'eurosceptiques d'Europe centrale qui, depuis l'affaire de la Crimée, ont mis un peu la sourdine. Et que le meilleur avocat dans ces milieux-là de l'Union européenne, finalement, était Vladimir Poutine. Donc, comme toujours, il y a des pour et des contre. Et juste un dernier point, une petite pour, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit sur la blessure des Serbes qui rencontrent un Français qui ne connaît pas la bataille de Kosovo. Il y a pire. Et on va terminer sur la Hongrie. Vous faites mal à quelqu'un et vous l'oubliez. Vous venez en Hongrie, vous dites Trianon. Un Hongrois vous dit Trianon et il vous dit dans les 3 minutes qui suivent votre arrivée. Et vous dites, vous parlez du gâteau, c'est quoi le problème? C'est-à-dire, non seulement on oublie des batailles entre les Ottomans et les Serbes, mais on oublie même ce que la France a fait comme politique dans certains pays. Et alors, les Tchèques ont l'avantage parce que Munich, les Français n'ont pas oublié. Mais Trianon, et juste pour une anecdote, j'ai des collègues qui ont organisé un colloque à Lyon où il y avait des invités hongrois. Ils les ont logés à l'hôtel Trianon. Et ils n'ont pas compris pourquoi les Hongrois.
Bien. Merci Madame Aurel, merci Monsieur Manchek.